Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo un peu spéciale puisque je me suis déplacé dans le sud de la France pour aller dans les bureaux de Chris et Tim, donc des clients d'Incubox depuis déjà plus de 3 ans et demi et qui ont créé la marque Lily Skin. C'est vrai que ça fait maintenant un bout de temps qu'on travaille ensemble. Merci de me recevoir dans vos bureaux, ça fait plaisir. Donc Lily Skin, c'est une marque qui a maintenant 3 ans, elle aussi.
Tout à fait. D'accord.
On s'est connus un petit peu avant en réalité puisqu'on a déjà travaillé ensemble sur d'autres boutiques. Vous êtes venu dans l'univers du dropshipping un petit peu par hasard finalement et vous êtes développé dans le e-commerce avec une vraie création de marque aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'on vous a accompagné également sur la partie produit bien sûr là-dessus depuis le début quasiment. Et Lily Skin c'est quoi déjà? Première chose pour les gens qui ne connaissent pas cette marque.
Lily Skin c'est avant tout une marque de démaquillage, donc ça c'est le premier point, de démaquillage réutilisable et de démaquillage à l'eau. Donc voilà, en quelques mots, ça va être ça Lily Skin. Et depuis, bon, on a rajouté des upsells, on a rajouté des petites crèmes, savons, mais avant tout, ça reste aujourd'hui toujours une marque de démaquillage, malgré le fait qu'on essaye de plus en plus s'en éloigner pour agrandir un petit peu le champ d'action de la marque. Mais aujourd'hui, ça serait ça la définition.
D'accord. Qu'est-ce qui explique le succès de Lily Skin? Qu'est-ce qui différencie le produit Lily Skin par rapport à d'autres produits qu'on peut trouver chez Sephora ou voilà, dans d'autres boutiques?
Bah, nous, d'abord, on a fait un gros travail de qualité sur le produit. Ouais. Je pense que l'un des meilleurs moyens de se différencier, c'est par la satisfaction client. Donc, du coup, on a fait un gros travail avec vous, justement, de sourcing, au final, de création du produit. On n'est pas parti d'un truc déjà qui existait. Et on a été assez pointilleux sur la qualité du produit, sur l'épaisseur, sur l'efficacité du tissu. Et après, un autre, je pense, angle qui fait que ça fonctionne bien, c'est aussi tout l'aspect marketing de la société, où on a testé énormément de choses pour voir ce qui pouvait fonctionner et quel message passer à notre audience pour qu'ils puissent se convertir à un produit réutilisable.
Ça, on va reparler après, justement, quelles sont vos petites recettes marketing, ce que vous pouvez partager, du moins, sur l'acquisition, comment vous avez fait aujourd'hui pour finalement développer Lily Skin. Alors du coup, Lily Skin, en termes de chiffres, ça représente quoi finalement en 3 ans d'existence aujourd'hui?
Aujourd'hui, on a une croissance à 3 chiffres. Sur cette année 2023, on est à plus de 450% de croissance. Donc c'est déjà une très très forte croissance. Ça représente aujourd'hui, en termes de chiffres, Lily Skin, plus d'une cinquantaine de personnes qui travaillent au sens large, externes et internalisées. Ça représente... plus de 200 000 clientes, ça représente plus de 3 à 4 pays. Donc aujourd'hui, c'est une marque qui a une vraie croissance exponentielle et qui a su profiter aussi du Covid pour on va dire, éclore et qui a après su rebondir sur cette acquisition client et qui continue à croître de jour en jour.
Mais vous êtes déployé en fait principalement en France. Quels sont les avantages, quels sont les inconvénients pour vous d'avoir une société en France?
Je dirais déjà, nous, la principale raison de ce choix-là, c'est qu'on ne se voyait pas vivre autre part. Ouais. On a nos attaches ici, notre famille, nos amis, Tim a une fille. Donc ça nous tenait à cœur en fait de rester ici parce qu'on se sent bien et qu'on est sur la Côte d'Azur et qu'on s'y sent très bien aussi. Et puis, effectivement, ça peut être un désavantage concurrentiel par rapport à d'autres marques qui ont d'autres systèmes fiscaux. Mais on est quand même très content d'arriver à faire fonctionner au final et d'arriver à avoir une marque rentable, même en France, c'est encore possible, tout en conservant notre cadre de vie. Même si on s'est déjà posé cette question-là, on y a répondu surtout par le fait d'un choix personnel et de vie. Et on arrive quand même à continuer à croître en fonds propres. On n'a pas de levée de fonds, on a vraiment s'autofinance. Donc la preuve que c'est possible et qu'on peut aussi garder son équilibre personnel à côté du côté professionnel.
C'était une question que j'allais vous poser aussi, justement, si vous aviez déjà fait une levée de fonds pour le développement de Lily Skin. Alors, en fait, finalement, vous êtes autofinancé en fonds propres de base et puis ensuite, fait boule de neige avec les résultats de la boutique où vous avez...
Ouais, c'est ça. Même depuis le début, on a commencé en fonds propres. Effectivement, c'est les bénéfices engendrés, en fait, la croissance qui fait qu'on arrive à s'autofinancer, même si ce n'est pas facile, mais on y arrive par différents systèmes pour assurer toujours plus de croissance sans avoir besoin de faire ni de prêt ni de levée de fonds. Donc, on on sait qu'il y a très peu de sociétés qui arrivent à le faire de nos jours. Et on, c'est un point sur lequel on est très content et très fier de rien devoir à personne. Moi.
Alors en fait, on s'est parlé la première fois, donc c'était avec toi, Chris, en 2019, fin 2019. Mm-hmm. Finalement, Incubox avait vu le jour à peine un an avant. C'était quand même encore aussi un peu nos débuts, malgré tout. Et c'est vrai qu'on a fait cette aventure en fait ensemble, chacun de son côté, mais on s'est rejoint sur ce projet, principalement sur Liliskin. Qu'est-ce que vous faisiez avant? Qu'est-ce qui vous a amené finalement au e-commerce?
Bah, avant, on était dans l'événementiel, donc un monde qui n'a rien à voir. Mmh. Et la passerelle s'est faite par un DJ qui avait lui-même du e-commerce dans son activité, qui faisait DJ, coach sportif et un petit peu d'e-commerce. Et en fait, bah, en discutant avec lui tout simplement, on a saisi une opportunité. On s'est dit, bah, c'est vrai que l'e-commerce, c'est toute l'année. Ça peut être toute l'année, alors que l'événementiel, c'est très saisonnier. Ouais, et donc, il y a des périodes un peu plus creuses. Et on s'est dit, bah, pendant ces périodes creuses, autant optimiser notre temps et lancer une nouvelle activité comme le e-commerce. Et donc, en fait, bah, ça s'est fait comme ça. On a lancé un premier site. On a commencé tout petit, comme un peu tout à chacun. Évidemment, on n'a pas commencé directement par Liliskin. On avait compté à la fin, on a à peu près lancé une vingtaine de sites, de boutiques avant de vraiment... trouver les chaussures à notre pied et quelque chose qui matche vraiment. Donc on a commencé comme ça et c'était voilà, la passerelle s'est faite par un DJ qui lui-même faisait du e-commerce, des petits résultats sympathiques et ça nous a mis un petit peu le pied à l'étrier. On a commencé comme ça.
Et alors qu'est-ce qui vous a motivé finalement à contacter un agent, puisque c'est comme ça qu'on s'est rencontré, Chris, hein, on en parlait justement. J'avais mis un commentaire sur un groupe Facebook, puisqu'à l'époque il y avait encore des groupes Facebook qui parlaient e-commerce, c'était encore assez répandu, et donc j'ai fait un commentaire, tu avais lu mon commentaire, et tu t'es dit, tiens, ce mec est agent, et...
C'est ça, moi ce qui m'avait intéressé, c'est qu'on était dans une phase où on avait une boutique qui commençait à fonctionner, donc c'était la première fois qu'on avait cherché un agent. Ouais. J'avais déjà contacté des agents directement locaux.
Des Chinois, tu
veux dire. Chinois, ça se faisait souvent sur Skype à l'époque,
on
contactait sur Skype. Ouais. Et quand j'ai vu ton commentaire, j'ai vu ton profil Facebook, j'ai compris que vous faisiez la même chose mais que vous étiez français. Et je me suis dit, bah cool, c'est une barrière en moins. Donc, par curiosité, je t'ai envoyé un message pour savoir est-ce que vous faites vraiment agent et comment ça se passe du coup ce côté français. Parce que c'est vrai que culturellement, c'est assez dur de traiter avec les Chinois, autant en termes de qualité que de compréhension, que de culture en fait, tout simplement. Et donc, quand j'ai présenté ça à Tim, on s'est dit, bah ok, c'est une super idée. Ça rejoint le côté humain et le côté fiabilité française, tout en gardant ce principe d'agent. Donc c'était parfait pour nous.
Mais vous aviez déjà travaillé avec un agent chinois?
Non, on avait déjà sourcé des agents, on va dire.
D'accord, mais pas...
Et on était vraiment dans cette pleine phase de recherche d'agents. Et on avait commencé à demander des cotations, etc.
Quels sont pour vous les points positifs de bosser avec un agent? Parce que c'est vrai qu'on a encore des clients qui comprennent peut-être pas toujours l'intérêt, qui disent non, mais bon, sur AliExpress, je peux d'ailleurs même demander aux personnes, c'est aussi des agents finalement qui sont sur AliExpress, mais je peux également demander de faire un packaging, ça suffit. Et donc, je ne sais pas si vous avez justement des points clés, vous vous dites non, mais là, c'est vraiment, c'est pas possible de faire autrement.
Bah, c'est vrai que déjà, dans l'accompagnement du développement produit, par rapport à prendre un produit AliExpress et le lancer, là, nous, on est vraiment dans de la création produit, dans du vrai création de branding. Et donc, il y a un vrai avantage dans ce développement-là de s'appuyer sur votre compétence, la compétence de Sylvain dans le développement du produit. Nous, on n'est pas à la base professionnel du textile. Sylvain, il a une compétence qui nous apporte déjà de par son expérience professionnelle. Donc, on s'est appuyé sur cela, sur sa compétence aussi de la relation chinoise, parce qu'effectivement, on en parlait d'ailleurs ce midi, les Chinois, ils vont avoir tendance à dire oui à tout, et puis au final, quand on reçoit le produit, il n'y a rien qui va. Et donc, pour simplifier ça, avoir une personne qui a l'habitude de traiter avec eux, qui a l'habitude de ce développement-là, même si un développement reste un développement long terme, on est assez bien placé pour le savoir, c'est toujours beaucoup plus simple et pour nous indispensable de travailler via Sylvain qu'en direct. Parce que on n'est pas, encore une fois, je me répète, des professionnels de ce développement-là. Et c'est une vraie façon de communiquer, une vraie façon de travailler qui ne s'acquiert pas du jour au lendemain. Et donc, cette compétence est pour moi déjà primordiale. et on peut pas s'en empêcher. On peut, voilà, si on veut faire une vraie marque et pas juste du dropshipping comme avant, c'est le développement est obligatoire. Et donc, pour nous, n'ayant pas cette compétence-là, c'était primordial de travailler avec.
Je rajouterais même que même en dropshipping normal, c'est quand même très difficile de trouver le bon fournisseur AliExpress, au final.
C'est vrai.
C'est-à-dire que pour un même produit, alors oui, tout le monde a les mêmes images, mais pour autant, ce n'est pas le même produit que tu reçois, et c'est pour ça qu'on conseille souvent dans les formations de dropshipping de commander le produit, déjà pour faire des vidéos d'ads, mais surtout pour s'assurer qu'on n'envoie pas non plus n'importe quoi au client. Parce que derrière, après, on a un mauvais score de page, on se fait bannir, et on a des problèmes, et je ne vous conseille pas forcément de l'aborder de cette manière-là. En tout cas, de nos jours, parce que tout s'est vraiment resserré autour du dropshipping pour que ça soit un peu plus
Ça
clean
sera,
qu'avant,
ouais,
voilà.
sûr.
Il y a beaucoup de gens qui sont de clients qui sont fait un peu pas forcément arnaqués, mais des clients qui ont pensé recevoir tel produit, ils ont reçu un truc de moins bonne qualité ou plus petit ou qui n'a rien à voir. Donc déjà que sur AliExpress, c'est très dur de sourcer un bon produit. Donc si jamais on va dans du développement produit ou même dans du branding, bonne chance hein, pour quelqu'un qui n'a pas d'agent d'arriver à le faire tout seul,
C'est clair.
aller contacter les agences, les usines en Chine. Enfin, vous avez un réseau vous qui vous permet de le faire, mais et c'est cette compétence-là aussi qui est importante, je trouve.
Ouais, tout à fait, on est des simplificateurs, on va dire, mais
Exactement.
par rapport à AliExpress, en fait, ce qu'il faut bien noter aussi, c'est que derrière ce qu'on voit sur AliExpress, c'est une vitrine, mais il y a donc un agent. En général, c'est des petits agents, et ce sont des agents qui vont se fournir dans différentes usines en fonction des stocks présents et en fonction des prix. C'est-à-dire que pour un même produit qui peut être fabriqué dans 10 usines différentes dans toute la Chine, voilà, il peut très bien, effectivement, chercher ses stocks ici, l'usine A, l'usine B, l'usine C, ce qui fait qu'il n'y a pas toujours la continuité, la qualité. Donc même si on commande un produit, on se dit, bon, ça va, le produit est clean, on va dire, on n'est pas certain que la semaine d'après, il envoie le produit qui vient de la même usine. Lui, fait un petit peu, c'est l'offre et la demande, c'est normal, et puis c'est également, voilà, dans sa marge de négociation avec certaines usines, il peut avoir des fois des meilleurs prix sur des lots, donc ça change tout le temps. Bon, c'est de bonne guerre, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, ce n'est pas des agents qui sont très structurés, c'est souvent des agents qui travaillent de chez eux, pour la plupart du temps, et donc il n'y a pas des critères de qualité qui sont aussi suivis que ce qu'un agent peut assurer, mettre en place. Quand nous, on commande dans une usine, on trouve un accord commercial avec cette usine, et on fait des audits de qualité à réception, et donc il y a une continuité, on va dire, dans la garantie de cette qualité, et c'est aussi ce qui fait l'intérêt de travailler avec un agent. Pas forcément un agent français, hein. Les agents chinois font ça également. La petite différence pour un Qbox, c'est qu'on comprend bien en tant que français quelle est la qualité attendue par les consommateurs
C'est
en Europe.
énorme.
C'est
C'est
tout.
énorme. La différence de culture est énorme.
La
Donc,
différence de culture est énorme, complètement. Donc LiliSkin, finalement, bon, vous avez fait une croissance de 450%, c'est ça? Ça s'explique comment? Alors, en dehors des produits qu'on a développés ensemble et qui répondent finalement, qui touchent leur cible, qui touchent leur audience. Mais quelles sont vos stratégies en fait d'acquisition? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, dans cette acquisition, vous avez tâtonné, enfin, vous avez cherché, quelles sont les recettes aujourd'hui qui font que ben, vous faites un tel chiffre d'affaires sur ces produits qui finalement, encore une fois, je le répète, on peut trouver des produits relativement équivalents à droite à gauche en cherchant bien. Qu'est-ce qui fait le succès de LiliSkin sur l'acquisition?
Déjà, c'est un ensemble de choses. C'est une grande mécanique où il y a plein de boutons qu'on a tournés un par un pour savoir lequel pouvait nous rapporter plus de résultats. Nous, on fait beaucoup d'acquisitions sur Meta, principalement, donc Facebook, Instagram, un petit peu d'influenceurs aussi. C'est une stratégie où, oui, on a fait énormément de testing. Comme je le dis souvent, au final, ce qui fait vraiment la différence, c'est les vidéos donc les vidéos de pub, hein, tout simplement, les vidéos ou support de pub, ça peut être des images aussi. Et c'est là-dessus qu'on a essayé de se démarquer en internalisant cette tâche-là et en écrivant des scripts, en faisant énormément de tournages et en exploitant des angles différents, des formats différents, en n'ayant pas peur de tester vraiment beaucoup de choses. Et 90% des choses n'ont pas fonctionné, mais après le 10% permet de trouver une note dynamique et de relancer des itérations sur quelque chose d'autre, mais partant de ce premier constat-là, des premiers 10% qui ont marché. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui on arrive à faire de belles performances. Et encore aujourd'hui, on est confronté à ce challenge-là de toujours trouver des nouvelles idées, des nouveaux formats, des nouvelles stratégies marketing. Et pas hésiter, nous on n'hésite pas aussi à être assez agressif en promotion sur notre site et aussi sur nos canaux email. Parce que c'est important en fait, les gens, même si le produit est qualitatif, attendent quand même des déclencheurs d'achat. Et les promotions sont un gros déclencheur d'achat. Qu'elle soit justifiée par un événement marketing ou parfois non, Il suffit de bien l'amener et de l'amener aux bonnes personnes aussi. Enfin, de pas forcément shooter toute sa base email en même temps et de segmenter, etc. Mais nous, c'est le style de stratégie qui nous permet d'avoir de gros résultats aujourd'hui, une grosse croissance. Mais par contre, c'est des efforts continus.
C'est ce qu'on disait tout à
Voilà,
l'heure.
ça ne s'arrête jamais au niveau des efforts. Il faut qu'ils soient constants, voire même grandissants, pour continuer à avoir de la croissance aussi à ce niveau-là.
Vrai que c'est marrant parce que finalement, on discutait tout à l'heure, donc avant cette vidéo, et de l'extérieur, on pourrait imaginer que, à la vue de vos résultats, qui sont quand même assez exceptionnels, vous pourriez être beaucoup plus confiant. En fait, je vous sens tout, et finalement, je trouve que c'est plutôt intéressant. Vous êtes toujours en prise de recul avec votre business. Vous êtes toujours, bon, je ne vais pas dire dans le doute, mais vous cherchez toujours en fait à vous améliorer et vous ne vous reposez pas sur vos acquis en disant c'est bon, on a trouvé la recette. Alors on sait que c'est un business qui change beaucoup, qui change vite. Il faut savoir s'adapter continuellement. Quels sont les axes finalement d'amélioration de Lily Skin que vous avez en prévision pour les mois, même les années à venir?
Bah, l'axe majeur aujourd'hui pour nous, puisque on est quasiment sur un seul produit winner, c'est de trouver un deuxième produit winner. Donc là, on fait encore appel à notre collaboration.
Travaille dessus.
On vous challenge sur pas mal de développement produit, parce que voilà, c'est un enjeu maintenant qu'on a inondé le marché, c'est peut-être un grand mot, mais qu'on a, voilà, en tout cas, atteint un plafond avec ce produit-là. Pour passer à un niveau supérieur ou même pour avoir une continuité de chiffre d'affaires, parce qu'à terme, on est sur des produits réutilisables, on est sur des produits où c'est compliqué d'avoir vraiment beaucoup de réachats, parce que bah, sur du long terme, mine de rien, une fois que tout le monde serait équipé, admettons, bah, voilà, on atteint un plafond. Donc voilà, on veut trouver un autre produit winner qu'on est en train de développer avec vous. Bien sûr, d'autres nouveautés sur ce même produit. Voilà, je pense qu'on a une dizaine de produits en développement chez vous actuellement
Tout
pour,
à fait.
selon le développement de chacun, pouvoir, nous, on a un objectif de à peu près un lancement de produits par mois. Donc voilà, l'enjeu aujourd'hui de Lily Skin, il se trouve à peu près là. Il y en a bien sûr des différents, mais en tout cas, ce qui nous concerne et ce qui concerne ceux qui regardent la vidéo, ça va être dans une fois qu'on a un produit winner, effectivement, pas se reposer dessus, mais essayer de chercher l'upsell qui correspond bien, le produit qui peut compléter, et ainsi de suite pour, une fois qu'on a construit une marque, quelque part surfer sur la marque, sur l'image de la marque et sur le fichier client qu'on a acquis au final.
Beaucoup de développement avec Lily Skin et puis il y a quelques beaux produits qui devraient sortir prochainement. Si vous suivez le site, vous allez sans doute les voir bientôt. Tout à l'heure, tu disais un truc, Chris, qui était intéressant. Tu disais principalement au niveau de l'acquisition, je reviens un petit peu en arrière, mais c'est principalement Meta. Vous avez commencé Lily Skin en basant quasiment le business sur de l'influence marketing. On le sait, l'influence marketing, c'est un domaine qui a beaucoup bougé et qui s'en est pris plein la figure aussi depuis déjà pas mal de mois. Ça représente maintenant une petite partie encore de la promotion, on va dire, de Lily Skin. Mais qu'est-ce que vous pensez de l'influence marketing, en fait, finalement, aujourd'hui, enfin, et est-ce que c'est encore exploitable? Parce que c'est des questions qui viennent toujours, même dans nos propres accompagnements avec d'autres clients. Beaucoup de gens nous disent, ah oui, moi, je veux vraiment lancer ça à fond de balle avec des influenceurs. Et j'ai l'impression que ce n'est pas encore forcément retombé dans l'esprit des gens. Et c'est intéressant d'avoir votre avis là-dessus.
Après, nous, on a le recul sur notre marque. Je pense que ça peut aussi dépendre de certains produits et aussi de ça fait partie d'une stratégie, l'influence marketing. Je pense qu'aujourd'hui, la clé, c'est quand même l'omnicanalité, c'est-à-dire de vraiment être présent à la fois en influence, à la fois sur Facebook, à la fois sur Google, à la fois sur TikTok. Tout simplement, déjà, pour ne pas dépendre d'un seul canal d'acquisition. Si demain, les influenceurs ne marchent plus ou il y a un scandale, qu'on puisse déjà être en sécurité en termes de business. Et surtout qu'il y a différents points d'entrée. Il y a des gens qui vont être très réceptifs à une promotion d'influenceurs, des gens qui vont être très réceptifs à voir tout le temps des pubs sur Facebook, des gens qui vont préférer voir ça même dans un magasin, en retail, qui achèteront qu'en magasin. Donc je pense que ça fait partie d'un mix marketing qui est intéressant. Baser toute sa stratégie là-dessus, sur le marché français, je ne pense pas que ce soit vraiment judicieux. Je ne connais pas les autres pays et les autres marchés, et je vois de temps en temps certains résultats d'influenceurs dans des pays un petit peu sous-exploités qui peuvent être intéressants. Mais j'ai pas le recul, donc je pourrais pas te donner une expérience personnelle là-dessus. Ce qui est intéressant quand même avec les influenceurs, c'est que ça apporte une légitimité un petit peu plus. Alors faut choisir les bons, hein. Forcément, c'est
Ah,
vrai que tout
évidemment.
ce qui est télé-réalité, etc., ça se fait de moins en moins. il y a de mauvais résultats, tout simplement, avec eux. Et ils n'ont pas une très bonne image, donc du coup, ils collent une mauvaise image au produit. Par contre, quand c'est des influenceurs de qualité, ça apporte une crédibilité, une légitimité, une notoriété à la marque. Et je trouve que c'est important dans la construction d'une marque. Voilà. Le plus dur, c'est d'arriver à sortir de nulle part et à se faire connaître. Et les influenceurs ont une marge de manœuvre très grande et très rapide dans cette stratégie-là de se faire connaître rapidement. Ce qui va être beaucoup plus dur sur Facebook, etc. Ça va demander beaucoup plus de budget pour juste toucher des personnes. Je ne dis pas de venir les convertir, mais il vaut mieux le faire avec des influenceurs. Pour coup. Donc ça dépend de la stratégie, de ce qu'on veut mettre en place, mais basé uniquement sa conversion et sa rentabilité sur les influenceurs, psychologiquement ça peut être compliqué parce qu'un jour ça peut marcher et l'autre non. Et surtout, c'est assez risqué en ce moment parce que de par les résultats, on voit que c'est pas le canal d'acquisition le plus rentable non plus.
Et alors, vous conseillez, hors télé-réalité, on va dire, parce qu'effectivement, c'est un peu grillé, cet univers, mais vous conseillez plutôt de vous diriger vers des influenceurs assez connus, ou est-ce qu'il vaut mieux viser une multitude de micros, voire des nano-influenceurs, parce qu'il y a plusieurs stratégies. J'ai un ancien client aujourd'hui qui me disait qu'il fonctionnait très bien, mais sur des nano-influenceurs, c'est-à-dire des femmes, parce que là, lui, il est vraiment dans un univers féminin. Des femmes qui ont 5000 followers, 10 000 followers, 20 000 followers, enfin vraiment des gens qui sont. Mais ils inondent en fait une multitude comme ça. Je ne sais pas du tout, enfin votre vue là-dessus, c'est quelque chose que vous faites aussi
On essaye, mais c'est très chronophage.
Ouais,
donc il faut trouver la bonne personne, soit pour le déléguer, ou sinon avoir une belle équipe pour le faire. Et je pense que c'est une meilleure idée effectivement de faire comme ça, déjà parce que ça dilue le risque forcément quand on paye un influenceur très cher. On prend le risque sur une seule personne, une seule promo, à un seul moment de la semaine, du mois, sur un produit, etc. Donc forcément, on dilue le risque. Par contre, ça reprend beaucoup plus de travail. Donc au final, je pense que ça dépend. Après, en termes de rentabilité, je ne suis pas certain que ce soit... En gros, les nano-influenceurs ne sont pas forcément des gens qui ont vraiment engagé leur communauté.
Ouais, c'est ça.
Donc, voir si ça convertit ou pas. Par contre, en termes de notoriété et de visibilité, c'est très bien parce que les gens vont voir la marque sur plein de points d'entrée, de tel profil, tel profil, tel profil, des petites personnes, une maman, une plus jeune, une influenceuse beauté, une influenceuse fitness. Parce que forcément, c'est plus facile d'en avoir beaucoup et d'être différentes. Donc, je trouve ça intéressant en termes de points d'entrée pour faire connaître sa marque.
Et c'est vous qui interagissez avec les influenceurs, c'est vous qui les bookez, entre guillemets, vous passez par quelqu'un d'extérieur, une agence, vous faites ça vous-même?
Alors, on lui fait. Aujourd'hui, on le fait plus. On a une agence qui le fait pour nous. L'intérêt de passer par une agence, c'est de mutualiser les datas et donc d'une marque à l'autre, savoir que cet influx a été rentable le mois dernier pour un autre client. On peut du coup, savoir qu'elle fait du bon contenu, qu'elle est sérieuse et ainsi de suite. Donc ça a été un intérêt pour nous. Et pour rebondir sur ce que disait Chris, en fait, je pense que le bon moyen est de faire un mix marketing entre micro, nano, médium et macro. En fait, si on fait que des micros, on va pas avoir la notoriété que peut apporter une Iris Mittener, une macro. Si on fait que de la macro, on peut pas avoir le côté tous les profils qui parlent de toi. Donc en fait, aujourd'hui, ce que je conseillerais plutôt que de choisir l'un ou l'autre, c'est de, si possible, évidemment, faire l'ensemble des strates, en fait. Hein, d'avoir un petit peu de micro, un petit peu de médium, un petit peu de macro, et de répartir, en fait, son budget parmi ces différentes strates.
D'accord.
Et pour une macro, avoir 10 micros, voilà. Et en fait, en faisant ça, on a une stratégie complète, plus logique, en fait, hein, que de choisir l'un ou l'autre.
Et alors, au niveau des publicités, puisque vous reposez, en fait, en grande partie, la pub sur Meta, ce que tu disais tout à l'heure, et c'est là où vous avez les meilleurs résultats. Est-ce qu'il existe finalement des secrets, des hacks que tu pourrais partager? Alors, je m'adresse à Chris, parce que c'est plus ta partie, on va dire. On en parlait ce midi en mangeant ensemble de quasiment tous nos clients. Vous êtes quasiment les seuls à en avoir. Alors, vous avez eu des petits blocages Facebook, mais honnêtement, rien de grave. On a eu, nous, des clients qui ont été totalement. Dont le business a été totalement à l'arrêt.
Anéanti
par des blocages récurrents sur Facebook. Oui. Et vous, c'est finalement avec. Ce que vous déployez, je dirais, en énergie, en argent, finalement, en coût publicitaire, vous n'êtes quasiment jamais embêté.
Mm-hmm. On ne l'est plus, ouais.
On ne l'est plus
parce que déjà, on essaye de maintenir une bonne relation avec Facebook, même si pour eux, nous, on représente une miette de pain. mais quand même d'avoir une bonne relation avec son account manager si on a la chance d'en avoir un. Ne pas hésiter à les solliciter dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a un message suspect, un blocage, quelque chose, directement aller leur expliquer, leur montrer qu'on est de bonne foi. Donc ça vraiment c'est ultra important je trouve. On s'est fait bloquer énormément de fois, mais au début, donc pas sur les skins, mais entre guillemets, on a essuyé les plâtres avec le compte publicitaire avant avec d'autres marques, où ça les a carrément anéantis. Pour le coup, ça nous est arrivé à la même chose. Et après, en termes de conseils pour de hack sur Facebook en soi, sans parler de blocage, mais plutôt en parlant de performance, je dirais que le vrai hack à suivre, c'est de faire de bonnes vidéos, de bonnes créatives. Vraiment, ça tourne vraiment principalement autour de ça. Faire confiance à l'algorithme quand même, c'est-à-dire pas essayer de faire des milliards d'adsets à 5 euros, ça malheureusement ça marche plus
C'est terminé.
forcément. Voilà, c'est terminé, au contraire, c'est même contre-productif en termes de résultats, donc je conseille pas de le faire. Puis ouais, après, il n'y a pas vraiment de hack au final, parce que autant avant, je pense qu'il devait vraiment y en avoir beaucoup plus en termes techniques de comment faire des pubs, justement, si je fais tant d'adsets, etc., ça va maximiser mes performances. Maintenant, il faut quand même avoir un produit qui intéresse les gens, des vidéos qui intéressent les gens, des vidéos qui arrivent à convertir les gens.
C'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure, c'est-à-dire que la technique
A de
a ses
moins en moins
limites.
sa place, ouais, c'est
Ouais,
ça.
ça a ses limites. Surtout qu'aujourd'hui,
Clairement.
c'est Facebook qui gère, finalement, on laisse.
Clairement. Et maintenant, en plus de ça, il y a des campagnes Avantage Plus où on connaît des personnes qui ont juste une campagne Avantage Plus, ils mettent tout dedans, retargeting, acquisition, tout, 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 et ils fonctionnent très bien avec ça. Donc pour dire qu'il faut vraiment faire confiance à l'algorithme, par contre ça fonctionne que si on a des vidéos qui marchent bien.
Tu parles de vidéo, et c'est vrai que c'était intéressant, je crois, dans la vidéo de Yomi, tu avais expliqué que t'avais pas imaginé en fait en entrant dans l'univers e-commerce que tu allais te transformer finalement en producteur
Ouais,
de
clairement.
contenu vidéo. Parce que finalement, c'est. Alors, à quel rythme tu sors ces vidéos? Pour qu'on comprenne, puisque là aussi, dans les personnes qu'on accompagne, ou même des clients qui sont sur la partie logistique, beaucoup ne comprennent pas. C'est-à-dire, bon, ils vont faire une vidéo ou deux tous les mois, puis bah, ça suffit, bon, je ne vais pas m'amuser à faire ça. Et j'arrête pas de leur dire, de leur expliquer, aujourd'hui, c'est la clé de voûte en fait de la réussite en e-commerce, c'est la production, c'est la production. Et c'est vrai que c'est un peu. Bah, en fait, grâce à vous, puisque je vois aussi la réussite de Lidiskin qui est forcément liée à ces productions continues de nouvelles vidéos avec des nouvelles idées. Et voilà, donc simplement, à quel rythme tu sors enfin, vous sortez ces vidéos?
Ça dépend des projets. On a des projets plus ou moins gros en termes de tournage. On essaye d'en sortir entre 3, 4 par semaine. C'est l'objectif qui n'est pas toujours atteint parce que, voilà, pour X ou Y raison, on a des contretemps. Mais en tout cas, le plus possible, c'est le pôle sur lequel on a le plus poussé en termes de recrutement parce que c'est la loi de Pareto. On a voulu pousser là-dessus. Donc, c'est là où on a estimé intéressant de faire du recrutement. Aujourd'hui, voilà. Le volume est important, puisque on peut penser des fois à titre personnel que la vidéo est super et elle va pas marcher, et au contraire, on va dire bon, celle-là on l'a fait parce qu'il faut la faire, et puis hop, c'est elle qui se retrouve prendre la dépense en fait dans Avantage Plus, pardon. Donc en fait, aujourd'hui, on n'est plus, on est on va dire plus maître de dire bah c'est celle-ci, on fait un projet, on y va. Non, on est dans ok, il y a une multitude de projets, on les tente tous. Et on laisse Facebook répondre. Donc c'est pour ça qu'on est entre guillemets condamné à faire du volume. C'est plus un choix, c'est aussi une nécessité en fait, due au retour qu'on a sur Facebook. Si on se contentait de dire on pense que la meilleure c'est celle-ci, on en fait une par mois, on divise par 10 le chiffre d'affaires.
Mais on a commencé comme ça. Parce que déjà, c'est évident que quand on est tout seul au début et qu'on n'a pas d'équipe, c'est compliqué d'avoir ce rythme-là de production. Donc on a commencé par une, deux par mois, et c'est au moment où on s'est rendu compte que c'était ça qui changeait tout, et c'était ça qu'il fallait accélérer, là on a recruté.
Et vous avez donc, enfin, pour expliquer, vous produisez tout en interne, en
De
réalité. Et
l'écriture au tournage, au montage, on
voilà.
fait tout en interne.
Vous avez recruté des personnes qui s'occupent du montage,
Exactement.
qui gèrent l'écriture des scripts, le tournage. Et alors, est-ce que ça coûte? Parce que c'est vrai que du coup, les personnes qui nous regardent pourraient se dire aussi, ça doit être un sacré budget, j'ai pas l'argent pour produire tout ça. Et tout à l'heure, en discutant, enfin, on était un peu amusé avec Hugo, qui est de l'autre côté de la caméra, que vous ne voyez pas. Mais on était un peu amusé de se dire, ouais, en fait, c'est un peu, je ne vais pas dire des bouts de ficelle, parce que c'est très bien produit, en réalité, c'est très bien écrit, mais quels moyens, quel budget, en fait, vous mettez dans cette création de vidéo et comment vous mettez ça en œuvre, quoi, finalement?
Le moins possible dans l'idée, parce que vu qu'on a besoin d'en faire beaucoup, si chaque vidéo nous coûte cher, on ne peut pas en faire beaucoup. C'est un trop gros risque parce que sur tout ce volume-là de vidéos, il n'y en a quand même pas beaucoup qui marchent. Et nous, on tourne tout à l'iPhone, on fait ça chez nous, dans le bureau, dans des Airbnb. Enfin, on met un petit peu de budget quand même. Le plus gros budget au final pour nous, c'est la masse salariale que ça représente. Mais elle est répartie sur énormément de projets, donc le coût d'une vidéo n'est pas si cher que ça au final. Et je conseille quand même à tout le monde d'abord de le faire soi-même, quoi. Parce que ne serait-ce qu'en le faisant, tu vas apprendre à mieux parler de ton produit, à mieux comprendre ce qui va fonctionner, ce qui ne va pas fonctionner. Donc, de ne pas le faire au début, je pense que c'est une erreur parce que directement de le déléguer, par exemple, à des agences de production et tout ça, ça peut être très bien. Faire des UGC, c'est indispensable parce qu'on ne peut pas faire 14 UGC soi-même du produit. Donc, ça, c'est indispensable. Mais par contre, ben, ça va apprendre à vraiment réfléchir. Et d'aborder un angle en vidéo ou en pub, ça va peut-être permettre de changer quelque chose sur une page produit. Ça va peut-être permettre de mettre en avant un argument sur le packaging. Des choses qui vont faire que la performance va être meilleure aussi. Donc, tout seul, avec un téléphone, quelques produits et son salon, on peut déjà faire plein de vidéos différentes. Donc, au final, je conseille vraiment de, plutôt de mettre de l'argent là-dedans, plutôt essayer d'apprendre et même si ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas, continuer jusqu'à temps au moins de trouver une vidéo qui a un minimum de traction pour après essayer d'analyser, de dire qu'est-ce qui a amené cette traction et de pousser sur ce point-là pour aller plus loin derrière.
Et ce que vous disiez aussi, ce qui était important dans les vidéos, c'était vraiment de retenir l'attention dans une société aujourd'hui, avec des, notamment avec TikTok. Bon, c'est pareil maintenant sur Instagram, on copie TikTok, c'est-à-dire les gens scrollent à l'infini. Il fallait retenir vraiment l'attention dans les premières secondes. Et donc vous mettez en place ce fameux hook. Vous avez quelques exemples, non, à donner justement de vidéos où vous avez fait un truc pour retenir l'attention comme ça, pour arrêter les gens dans le scrolling?
On en a fait plein, on s'est un peu tout permis. On en a fait où j'ai mis ma tête dans un sac de coton, où on a troué du coup le sac, j'ai mis ma tête dedans et après on l'a rempli de coton, donc j'avais juste la tête qui dépassait. On en a fait où on a mis, comme l'avait dit Tim, des pads dans une poêle. On en a fait où on découpe nos produits. On a fait plein de choses différentes pour vraiment attirer l'attention. Et on peut attirer l'attention par l'image et par le texte qu'on écrit aussi dessus.
Donc il faut oser,
la combinaison
en fait,
des deux.
C'est un conseil, quoi.
Mais il faut au moins tester. Parce qu'au final, une vidéo qui ne marche pas, elle va très peu dépenser, donc très peu de personnes vont la voir. Donc en plus de ça, on ne prend pas grand risque en termes d'image de marque de tester ça. Donc autant le faire, et si ça fonctionne, tant mieux. Et si ça ne fonctionne pas, ben, on aura appris que ce type-là d'accroche ne fonctionne pas.
D'accord. Dans nos accompagnements, on a aussi beaucoup de gens qui sont très inquiets, puisque c'est des gens souvent qui viennent du milieu du salariat. Donc c'était salarié toute leur vie, puisqu'on a beaucoup de gens qui sont en reconversion. La crainte qu'ils ont, alors en dehors du... est-ce qu'on a choisi le bon produit, est-ce qu'on va réussir à le vendre, est-ce que ça va fonctionner, bon ça c'est les craintes et les doutes légitimes, donc on est là aussi pour les rassurer, pour les encadrer dans cet accompagnement, mais souvent ce qui revient aussi c'est oui mais je ne sais pas gérer une boîte, j'ai jamais été chef d'entreprise avant, j'y connais rien, les impôts, l'URSSAF, la comptabilité, etc. Et c'est vrai que y a, comme tu l'as dit tout à l'heure, il n'y a pas d'école effectivement pour apprendre à devenir chef d'entreprise. Comment ça s'est passé pour vous en fait?
Bah déjà, il y a autant d'entrepreneurs que de personnes, c'est-à-dire que chacun gère sa société comme il l'entend. Donc déjà, c'est comme il n'y a pas d'école pour devenir papa, toi et moi on est papa, bah, on n'a pas d'école, on est papa comme on est. Donc ça c'est le premier point, c'est que comme vous êtes dans la vie, vous serez chef d'entreprise. Il n'y a pas une seule bonne méthode. Donc ça c'est déjà le premier point. Moi après personnellement, et le conseil que je peux donner, c'est que être entrepreneur c'est aussi bien savoir s'entourer. Si on pense tout diriger tout seul, c'est une erreur et c'est, je pense, difficile à faire, voire impossible. Donc en fait, on n'est pas expert dans tout. Tout ce qui est comptable, y a comptable qui va pouvoir conseiller, qui conseille aussi sur le côté souvent social, qui peut avoir un conseil fiscal. Donc en fait, être entrepreneur, c'est aussi savoir bien s'entourer, c'est avoir des notions. À force de s'entourer, à force de discuter avec des personnes, on acquiert des compétences. Mais au début, effectivement, nous, on s'est lancé dans l'entrepreneuriat en sortie d'école, qui n'avait pas forcément de lien avec ce qu'on allait créer comme société. Et ben, c'est à force de faire des rendez-vous comptables pour choisir le comptable, à force de faire des rendez-vous, et ben en fait, qu'on apprend le langage, qu'on apprend les compétences, on fait des erreurs, on apprend. Mais donc, je pense qu'il faut vraiment pas avoir peur de se lancer et d'apprendre sur le tas. Parce que déjà, énormément d'entrepreneurs, et même à succès, vraiment, sont partis de zéro. Donc ça veut bien dire que c'est peut-être même la meilleure école, pourquoi pas. Et en tout cas, bien s'entourer, être conscient de ses faiblesses, de ses forces, rester soi-même, et ça sera la meilleure façon de gérer votre société.
Et autre chose, alors, concernant l'entrepreneuriat, puisqu'on en parlait tout à l'heure, sur ce qu'est un entrepreneur, pourquoi on devient entrepreneur, et finalement, qu'est-ce qui nous anime, qu'est-ce qui fait qu'on se lève chaque matin en se disant « Ok, j'adore ce que je fais ».
Alors, c'est une question assez large pour commencer. C'est vrai que je vais parler personnellement, mais je pense qu'il y a pas mal de chefs d'entreprise qui vont se retrouver là-dedans. Il faut faire attention, parce que souvent les gens qui choisissent l'entrepreneuriat, c'est des personnes qui veulent être libres, qui mettent ça en avant. Effectivement, on est libre de 100% de ses décisions, mais on est responsable de 100% de ses actions aussi. Donc, à la différence d'un salarié. Donc, il y a aussi cette... il faut faire attention entre la liberté et le côté de... si je travaille pas, en fait, j'ai rien à la fin du mois. Donc, moi, ce qui me stimule vraiment en tant qu'entrepreneur, c'est l'aboutissement d'un projet. C'est-à-dire fixer un objectif ou fixer un projet au sens plus large, se demander exactement comment faire, sans savoir vraiment comment faire, mais on est bien obligé de décider au début. Se demander également, essayer de brainstormer pour savoir quelle va être la meilleure stratégie, faire des choix aussi. Être entrepreneur, c'est faire des choix quasiment tous les jours, sans savoir si ça va être les bons ou pas, mais arriver à se faire assez confiance pour se dire, je pense à l'heure, enfin à la minute où je te parle, que c'est le meilleur choix, donc je le prends sans regretter les incidences de soi si c'était pas le bon, parce que je peux pas le savoir aujourd'hui. Enfin, je vois beaucoup, en tout cas, sur les réseaux de gens qui veulent se lancer dans le e-commerce, etc., ou dans le trading ou tout ça, et qui n'ont pour seul objectif l'argent. Je pense que ce n'est pas une motivation assez grande pour arriver à être assez persistant, en fait. Parce que l'entrepreneuriat, ça reste dur. Nous, on a la chance de le faire à deux. Donc déjà, on arrive à, dans les phases de baisse de morale, etc., à se remonter le moral, à trouver des solutions, à être assez complémentaires là-dessus. Donc d'autant plus tout seul, il faut être très, très motivé. Par contre, c'est faisable. Je ne dis pas du tout que c'est impossible. Je dis juste qu'il faut vraiment le vouloir. Et c'est vrai que le faire que pour l'argent, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Parce qu'au final... après, c'est ma manière de réfléchir, mais je pense que l'argent n'est pas la... C'est le curseur qui te permet de voir si tu réussis ou pas. Mais pour autant, ce n'est pas forcément ça qui va te rendre pleinement heureux, pleinement rempli et heureux tous les jours. Je suis plus content de venir au bureau le matin en sachant qu'il y a toute une équipe de potes, d'amis et même d'alternants, etc., à qui j'adore passer des moments humains, plutôt que faire beaucoup plus de chiffre d'affaires, mais être tout seul. Parce que c'est un équilibre, parce que je pense qu'il y a vraiment une vision de l'entrepreneuriat qui te permet, oui, d'arriver à une liberté où il n'y a pas de plafond, contrairement au salariat, ça c'est génial, c'est-à-dire qu'on peut aller aussi loin que ce qu'on est capable d'aller. Et je trouve ça vraiment super, par contre, vraiment, voilà, ne pas tomber dans ce piège-là de faire ça que pour l'argent. Bien sûr que c'est une motivation supplémentaire, bien sûr qu'on a des objectifs financiers, mais pour autant, ne pas non plus compter là-dessus pour penser qu'il n'y a que ça qui va nous rendre heureux. Parce que je trouve que c'est un petit peu malsain au final. Et c'est-à-dire que si demain on n'a plus d'argent, on n'a plus d'identité, on n'est plus heureux. Oui. Alors que je pense que ce n'est pas du tout le cas. Et il y a des preuves partout dans le monde comme quoi ce n'est pas du tout le cas. Donc voilà, voir plutôt ça comme un projet au sens large et arriver à se challenger soi-même et dire est-ce que je suis capable de remplir tel objectif ? Est-ce que je suis capable d'aller aussi loin que ce que je pense vouloir aller ? Et d'apprendre en chemin, quoi.
Tu ne veux pas te résumer au chiffre d'affaires que tu produis C'est non. Finalement juste un bonus.
Mais ça reste le curseur. Donc, quand le chiffre d'affaires va pas bien, tu te remets aussi en question. Donc, c'est, voilà, faut bien savoir quand même que c'est le principal curseur. Donc, tu joues avec tous les jours, tu es au contact, quoi. Donc, on peut pas s'en détacher non plus à 100%.
Et toi, Tim, tu avais quelque chose à ajouter là-dessus ? Ou est-ce que Chris
a
tout dit ?
On a quand même sensiblement une vision similaire. C'est pour ça qu'on entreprend ensemble. Après, moi, j'ai plus un côté jeu dans ma personnalité. Et c'est vrai que pour moi, c'est, l'entrepreneuriat, c'est comme un jeu. Dans un jeu, il faut prendre des décisions tous les jours. Voilà, j'appuie sur quoi, j'appuie sur carré, c'est une décision. Bon, bah, là, c'est choisir tel partenaire ou quoi. Bon, mais ça reste des petites décisions à prendre tous les jours ou des grosses. Donc, ce côté prise de décision tous les jours, c'est vrai que c'est quelque chose qui me plaît. Et ce que je te partageais et ce que je te dis, c'est que, en fait, c'est le fait d'atteindre des buts, d'atteindre des objectifs qui est satisfaisant. Et en fait, j'ai le même plaisir à atteindre un objectif à 1 000 euros qu'à 10 000 euros. Et j'ai la même déception d'arriver à 900 euros qu'à 9 000 euros. Ce qui en soi est bête, ce qui veut bien dire que c'est pas l'argent le but, parce que je devrais être beaucoup plus content d'avoir 9 000 euros que 900 euros au final. Mais en fait, moi, je vois l'objectif atteint ou pas atteint, et comme un niveau atteint ou pas atteint à un jeu vidéo. Donc en fait, et c'est voilà, ce principe-là, cette mécanique-là est valable sur tous les points. voilà, j'ai un objectif de négo, ben, voilà, je vais configurer ça comme un jeu et de me dire, ok, donc qu'est-ce que je peux mettre dans mon jeu de cartes pour avoir le meilleur jeu face à l'adversaire, tac, 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 et je vais réfléchir à ce jeu de cartes-là. Et au final, le deal peut très bien se faire, peut très bien se faire si, sans la négo, en fait, hein. Il y a des gens qui ne négocient pas. Mais c'est juste que moi, du coup, c'est un jeu de négocier. Et c'est un jeu qui est, tant mieux, un avantage dans le commerce et dans le business. Donc, je le mets au service de la société. Mais avant tout, je ne vais pas négocier en disant, aujourd'hui, c'est négo. Bon, bah allez, allez, je vais au travail. Je vais faire ça. Non, dans la prépa de ma négo, je vais être là. Qu'est-ce que je peux faire? Et je vais m'amuser à réfléchir à comment avoir le meilleur jeu de cartes face à l'adversaire. Donc, en fait, c'est un jeu. Et donc, c'est en ça où c'est une passion et un plaisir d'évoluer là-dedans.
Ok, donc c'est s'amuser finalement quand même qui reste important au final.
Ouais, carrément. Ouais,
C'est vraiment le fil conducteur quand même.
s'amuser et créer au final, partir dans une direction que personne t'a donnée, quoi.
Quand on a créé notre première société, on avait mis dans notre diaporama à nos parents et aux banquiers que là une phrase de Confucius qui dit que si tu fais ce que t'aimes, tu n'auras jamais l'impression de travailler toute ta vie. J'ai un peu saccagé, mais
Ouais, mais bon, on
c'est
comprend.
l'idée.
Confucius, c'est pas
Ouais.
content, hein.
Confucius a retourné dans la tombe. Mais t'as la phrase exacte ou pas?
C'est choisissez un métier que vous aimez
Et
ou
vous ne
un
travaillerez plus un seul jour, un
ah,
truc
des
comme
choses
ça.
de Exactement, merci pour la correction.
Ouais.
Et donc voilà, en fait, c'est faire ce qu'on aime. Moi, j'aime négocier, j'aime ça. Mais si la personne qui nous regarde aime développer des sites ou que sais-je, sa compétence,
Bien
voilà,
sûr.
c'est chacun après est comme il est, encore une fois, pour reprendre mon discours sur l'entrepreneuriat. Mais moi, je suis dans le jeu, je suis là-dedans, bah, je me travestis pas et je reste comme ça dans l'entrepreneuriat.
Et votre, vos familles, vos proches, parce que enfin, c'est important aussi quand on est entrepreneur, c'est aussi des questions qui reviennent souvent. Moi-même, j'y ai fait face, mais comme beaucoup d'entrepreneurs, c'est-à-dire que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, le regard en fait, de la famille ou des proches n'est pas forcément très bienveillant, j'ai réussi à le dire. Souvent, par crainte, pas, parce que chacun se renvoie ses propres craintes aussi. Donc, c'est aussi de l'amour hein, dans ces cas-là, c'est-à-dire, mais non, mais on veut protéger les gens, etc. Et pourtant, bref, quel est le regard? Avant et aujourd'hui, en fait, de votre famille et de vos proches.
Il n'a pas beaucoup bougé, honnêtement.
Il n'y a pas beaucoup bougé.
Non, parce qu'on a eu la chance de préparer notre annonce déjà. Surtout par
D'accord.
rapport à nos parents. Nous, on est
Le fameux diaporama.
le
Le
fameux
fameux.
diaporama,
C'est pas
voilà.
mal d'avoir fait un diaporama.
On a fait une présentation PowerPoint pour expliquer à nos parents pourquoi on se lançait là-dedans et pourquoi on n'irait pas au bout de
C'est
parcours qu'on
excellent.
avait choisi à la base. Comme on
Excellent.
irait convaincre un banquier de nous faire après, quoi.
D'accord.
Parce que pour nous, on s'est dit, bah, ils ont sacrifié de l'argent pour nos études. Ils se sont peut-être aussi fait une idée de ce qu'on allait faire plus tard. Et on arrive et on chamboule le plan d'un coup, à un jeune âge. Donc en vue de parents, on s'est directement mis à leur place en disant, bah, il faut qu'ils comprennent que notre décision aujourd'hui, elle est fondée.
Ok.
Elle est fondée comme des personnes de 18 ou 20 ans, mais elle est quand même fondée. C'est pas juste une envie, boum, je vais créer ma boîte et je vais sacrifier 5 ans d'école à je ne sais combien de milliers d'euros l'année. Enfin, voilà. Mais franchement, on a été très très bien. Enfin, notre entourage a été très bienveillant envers nous. Je pense parce qu'ils ont compris aussi qu'on avait confiance en nous. Et ça, c'est important, effectivement. Bah, quand quelqu'un se lance et qu'il le fait avec confiance, on a de suite beaucoup plus envie de le supporter que si c'est quelqu'un qui a peur. Et après, je pense que dans tous les cas, si on y arrive, il faut arriver à passer outre ça. Si on croit en soi-même, qu'importe ce que disent les autres, c'est sa flamme intérieure qui compte. Et on leur prouvera plus tard, c'est pas grave. C'est sûr que c'est plus difficile, parce que quand on n'a pas l'aval de sa chérie et qu'elle va nous demander de rentrer plus tôt parce qu'elle comprend pas qu'on travaille tard, etc. C'est plus difficile. Mais pour autant, je pense quand même que par de la discussion et par de l'explication, on peut arriver à faire comprendre certaines choses aux gens. Et au final, se dire, même s'ils ne me supportent pas, c'est pas si grave. Au final, ils me rejettent juste leur propre peur à eux. C'est eux qui ont peur. Moi, j'ai pas peur. Et le principal, c'est de soi pas avoir vraiment peur. On a toujours peur, mais d'arriver quand même à passer à l'action, même avec cette peur. Alors eux, ils n'en seront jamais capables, sûrement, s'ils font ce genre de remarques-là. Donc ils projettent, eux, leur peur sur nous, quoi.
Tout à fait.
Voilà.
Ok, alors on va bientôt terminer cette vidéo. Je vais revenir une dernière fois sur le développement de produits, puisque c'est ce qui nous unit en fait dans notre relation en fait client-fournisseur. Et les produits, c'est vrai que beaucoup de gens ne savent pas forcément définir ce qu'est un bon produit. voilà, on nous demande toujours d'avoir la meilleure qualité possible, mais c'est souvent synonyme aussi de prix les plus élevés. Et ce n'est pas toujours ce qui va convertir le mieux, ou ce n'est pas forcément ce qui va être un game changer en fait, dans une boutique e-commerce. Alors, pour vous, quelles sont les clés, je dirais, quels sont les secrets d'un bon produit, puisque aujourd'hui, bah, vous vendez quand même énormément de produits tous les jours. Je pense que vous avez peut-être une petite idée de ce qu'est un bon produit.
Avant tout, un bon produit, c'est un produit qui est validé par le marché. C'est-à-dire que des fois, on peut penser que c'est un bon produit, en le mettant sur le marché, on se rend compte que non. Donc avant tout, c'est pour moi, c'est la première définition, c'est un produit qui est validé par un marché. Il y a des moyens de le savoir, hein, en regardant sur une autre boutique, voilà. Bon, la première data, c'est celle-ci. Après, une fois qu'on a fait ça, bah, c'est un produit avec un taux de marge OK, un taux de marge réfléchi, calculé. Parce que bah, du coup, effectivement, dans le développement produit, on peut des fois se faire avoir sur le coût de shipping, le coût de packaging, le coût de plein de produits pièges. Donc voilà, un bon produit, c'est aussi un produit avec un taux de marge calculé, réfléchi, avec remise, sans remise, avec TVA, sans TVA, puisque bah, voilà, dans vos clients, il y a des personnes qui peuvent se faire avoir par ce genre de calcul. Nous-mêmes, on a pu avoir des manques de réflexion, des manques de calcul là-dessus. Ça nous est arrivé aussi, ça peut arriver à ceux qui nous regardent, de voilà, bien prendre en compte tous les coûts dans le bon produit. Il y a évidemment ce calcul qui rentre en compte. Et enfin, ça va être un produit qui, bon, s'il est validé par le marché, c'est forcément le cas, mais une fois qu'on l'aura développé de notre côté, qui est quelque part un bon produit, parce que pour construire une bonne marque, il faut un bon produit, que le client soit satisfait. Et donc voilà, si on a un produit qui est validé, qu'on le copie, en enlevant tous les bienfaits du produit, en le prenant à bas coût pour garder la marge, et au final le produit ne satisfait pas le client, ben, on aura coché les deux premières cases mais pas la troisième. Donc voilà, pour moi, pour avoir la finalité globale, c'est que le produit satisfasse le client, corresponde aux attentes, et pour moi, avec ces trois éléments là on est garanti d'avoir un bon produit.
Ok, bah alors on va terminer cette vidéo. Bah, pour finir, je vais vous poser la question évidente. Bah, est-ce que vous recommandez l'accompagnement d'un Qbox?
Suspense. Non, c'est un grand oui, évidemment. Vous pouvez même nous retrouver sur votre site.
Ouais, qui témoigne.
Qui témoigne, voilà, qui recommande. Donc, on peut le refaire à cette fin de vidéo. Évidemment que pour nous, ça a été un partenaire clé et primordial. Et donc, qu'on vous recommande, si vous regardez cette vidéo-là et que vous vous posez la question, voilà, allez-y, puisque... pour nous, déjà, un point qui n'est pas commerce, mais humainement, ce sont des chouettes types. Donc, donc voilà, vous pouvez déjà passer des bons moments avec eux. C'est important. Et après, quand même, le plus important dans le travail, voilà, c'est sérieux. C'est un partenaire sur lequel on peut s'appuyer, qui croit avec nous. Et ensemble, on va plus loin. Donc voilà, allez-y, les yeux fermés.
Ok, ben encore merci, en tout cas Tim et Chris, de m'avoir reçu dans vos bureaux. C'est la fin de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne d'Incubox et au plaisir de vous revoir sur les prochaines vidéos et les prochaines interviews d'entrepreneurs. À bientôt.
Bye.